heureuse de commencer cette session. Donc, je me nomme Marie-Claire Villeval, je suis directrice de recherche au CNRS et directrice du groupe d'analyse et de théorie économique. Et donc je vous présente nos intervenants de cet après-midi. Claude Montmarquette, qui est professeur à l'Université de Montréal et cofondateur du CIRANO, qui est le centre interuniversitaire en recherche et en analyse des organisations à Montréal. Stéphane Robin, qui est chargé de recherche au CNRS, au GATT. Donc Claude Montmarquette vous parlera de la manière dont on peut utiliser les expériences pour tester des politiques économiques, qu'il s'agisse de politiques économiques publiques ou privées. Et Stéphane vous parlera de la façon dont on peut utiliser les expériences en classe pour enseigner l'économie, classe de lycée ou groupe à l'université. Donc, je vous fais simplement une introduction pour vous expliquer ce qu'on appelle économie expérimentale et quel est l'intérêt de cette méthode. Donc, qu'est-ce qu'une expérience en économie? On pense toujours à l'expérience en biologie, en médecine, et on a un peu du mal à imaginer que des économistes peuvent faire des expériences. Donc, l'idée, c'est en économie de reconstituer ou de reproduire de manière stylisée et de manière très simplifiée une situation économique particulière. Donc on va reproduire dans un environnement contrôlé, paramétré, une situation très simplifiée, de façon à répondre à une question particulière. J'ai pris un exemple, un marché du travail. On peut reconstituer un marché du travail dans un laboratoire d'économie, et on va par exemple essayer de répondre à la question suivante: est-ce que le salaire baisse quand du chômage apparaît sur ce marché? Et on va tester ça, et on va soumettre ce test à différentes variations de l'environnement. Alors, le deuxième principe, c'est le contrôle de l'environnement, justement. L'avantage des données expérimentales, c'est qu'on va pouvoir reconstituer en laboratoire un contexte parfaitement identifié, contrôlé et donc reproductible dans tout autre endroit et toute autre période. Qu'est-ce que j'entends par contrôle de l'environnement? Eh bien, par exemple, on sait exactement quelles sont les informations dont disposent les sujets qui vont participer à l'expérience. Dans la réalité, c'est difficile. À partir de données naturelles, on a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer l'action, le choix économique d'un agent. Ici, on va essayer de simplifier, on va éliminer tout ce qui peut influencer, polluer le phénomène que l'on veut étudier. Et on va maîtriser exactement la quantité d'informations qu'on va donner à nos sujets. Donc, par exemple, on va contrôler que sur un marché du travail, il n'y a pas de nouvelles entrées. On va contrôler que les échangeurs ont telle valeur privée pour le bien échangé. C'est nous qui allons imposer la valeur du bien pour les vendeurs, pour les acheteurs, et on va bien voir si les prix s'accordent à l'équilibre. On peut induire les valeurs des biens aussi et contrôler donc ce que vaut un bien pour un vendeur ou pour un acheteur. Troisième principe important, c'est que des expériences, ce ne sont pas des simulations, elles ne sont pas des jeux de rôle non plus. Dans ces expériences, on va faire participer donc des élèves, des étudiants ou des salariés d'entreprise ou des managers. Et on va inciter ces sujets à jouer réellement. Il ne s'agit pas simplement de prendre le rôle d'un employeur ou d'un trader sur un marché, mais il s'agit de faire des gains en fonction des décisions qu'on va prendre. C'est une grosse différence avec les psychologues. On paye en fonction des décisions prises et en fonction de l'impact de nos décisions sur les décisions économiques des autres agents. Autrement dit, nos sujets vont prendre des décisions qui sont intéressées monétairement. Alors, c'est une démarche qui est relativement récente et très certainement en profond développement. Vous avez un petit graphique à gauche qui vous donne l'évolution depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui des publications en économie qui utilisent les expériences. Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe considérablement. Pourquoi ça se développe aussi bien? C'est parce que c'est une méthode, vous allez voir, qui offre beaucoup d'opportunités, et puis aussi parce qu'on a été aidé par l'attribution du prix Nobel à trois grands chercheurs. Tout d'abord, Reinhard Zelten en 1994 pour ses travaux en théorie des jeux, et puis en 2002, Vernon Smith et Daniel Kahneman. Vernon Smith pour ses travaux sur les mécanismes de marché, et Daniel Kahneman, qui est psychologue, mais qui a eu le prix Nobel d'économie, pour avoir permis aux économistes de prendre en compte des dimensions psychologiques qui permettent de mieux éclairer et de mieux comprendre les comportements sur les marchés. juste pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble une économie ou à quoi ressemble le laboratoire expérimental, vous avez ici quelques photos. Donc voilà, comment se déroule une expérience? Eh bien, on a un protocole qui précise toutes les règles du jeu, les règles de prise de décision. Et ensuite, les sujets, donc les individus réels, hein, prennent des décisions de manière anonyme et confidentielle. Donc on a mis simplement quelques photos pour illustrer ces laboratoires. Vous voyez en haut, les deux photos du haut, on a simplement reconstitué un laboratoire en entreprise, donc il suffit d'avoir un réseau d'ordinateurs, puis des cloisons pour que les personnes puissent prendre leurs décisions de façon totalement anonyme et confidentielle. En bas, à gauche, vous voyez notre laboratoire à Iculi, donc le laboratoire du GATT. Et puis j'ai pris une photo, sans demander l'autorisation à Claude, de son laboratoire à Montréal. Mais c'est le même principe, vous voyez à chaque fois des séparations et des boxes individuelles. Enfin, avant de passer la parole aux intervenants de la session, à quoi servent les expériences en économie? C'est un bel outil, c'est une méthode intéressante, mais est-ce que ça a une quelconque utilité? Puis en fait, il y a quatre utilités principales. La première, c'est de tester les prédictions de modèles théoriques. Donc, pour les chercheurs en économie, c'est un outil qui permet d'aller au-delà de la modélisation théorique des comportements rationnels, hein, et de voir si réellement les individus se comportent comme ça. Par exemple, la théorie du salaire d'efficience prédit que l'effort augmente avec le salaire. Est-ce que c'est vrai? Ça, on peut le tester en laboratoire très facilement. Il y a un poster d'ailleurs dans le hall de la chambre de commerce qui vous montre comment on peut tester le salaire d'efficience. Deuxième utilité, c'est de générer des données qui ne sont pas disponibles dans les enquêtes de type INSEE ou autre. Par exemple, l'effort, le goût du risque, la préférence pour le présent. La réciprocité vis-à-vis des autres, l'altruisme, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il est difficile de capter à travers des enquêtes directes auprès des agents. L'expérimentation permet de révéler, à la limite sans que les gens s'en rendent compte, leurs caractéristiques. Troisième rôle, Claude Montmarquette va en parler, c'est aider à la conception de politique économique. Il va vous montrer que ça coûte beaucoup moins cher que d'implémenter des politiques au niveau d'une région, par exemple, pour voir si ça fonctionne. Peut-être que faire déjà des tests en laboratoire, ça permet d'aider à la décision. Et puis enfin, et ça va être la transition, avec l'orateur suivant, c'est rendre l'enseignement de l'économie, que ce soit au lycée ou à l'université, beaucoup plus attractif et beaucoup plus intuitif. Voilà, donc je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Stéphane Robin.
Donc, ce dont je vais vous parler cet après-midi, qui intéresse un certain nombre d'entre vous, c'est de savoir comment on peut utiliser l'économie expérimentale et les jeux que l'on peut conduire en classe comme outil pédagogique. D'abord, deux constats pour commencer. Premier constat, c'est que la réalité économique, et ça c'est pas une découverte, est en général extrêmement complexe, qu'il est très difficile d'arriver à appréhender cette réalité sur la base de la simple observation, et que lorsque l'on enseigne l'économie, que l'on cherche à expliquer des phénomènes, des mécanismes économiques, se référer à la réalité n'est pas souvent facile. Deuxième constat, l'enseignement de l'économie, de la théorie économique, est souvent jugé par les enseignants, par les élèves, en tout cas en France, comme trop abstraite et trop formelle, et on a face à nous des étudiants qui sont complètement réticents à rentrer dans les modèles qu'on leur propose parce que rebutés par la formalisation qui est proposée. Alors, partant de ce constat, on peut utiliser l'économie expérimentale pour proposer des mises en situation simplifiées aux élèves et faire une introduction qui est ludique, qui est participative aux théories économiques qu'on peut présenter en cours. Pour illustrer ce dont je vous parle avec un exemple très simple, j'ai pris l'exemple que j'aime bien, qui est l'exemple des marchés des lois de l'offre et de la demande. Si vous rappelez de vos cours de microéconomie, qu'est-ce que c'est que les lois du marché que l'on enseigne en cours d'économie? C'est principalement le modèle de l'équilibre partiel. Sur ce modèle, on vous explique que vous avez une fonction d'offre qui représente le lien qu'il peut y avoir entre un prix de marché et les quantités qui seront offertes sur un marché. En face de cette fonction d'offre, vous avez une fonction de demande qui représente le lien qu'il y a entre un prix de marché et la quantité qui va être demandée sur ce marché. En général, on prend des belles courbes qui se croisent. Et on vous explique assez rapidement qu'il existe un prix d'équilibre qui permet d'équilibrer l'offre et la demande, et que la résolution analytique d'un système d'équations conduit à déterminer ce prix d'équilibre, qui est ici dans mon exemple à 785, et qu'on a une quantité d'équilibre qui maximise le surplus dans l'échange avec 25 unités échangées, et que voilà, le marché s'équilibre autour de ce prix. Point. Quand on présente des choses comme ça, on comprend qu'on a des difficultés de faire un lien entre ce modèle de l'équilibre partiel et les marchés qu'on peut connaître dans la vie en général. Éventuellement, on peut avoir des étudiants qui ne sont pas prêts à accepter ce type de modélisation. Alors, comment on peut faire pour approcher ce modèle-là d'une façon un peu différenciée via un jeu expérimental? En fin de compte, c'est extrêmement simple. Il suffit d'avoir une classe face à soi, de dire, ben voilà, les gens qui sont sur ma gauche seront des vendeurs sur ce marché. Vous leur expliquez qu'ils pourront vendre sur le marché. Vous leur expliquez éventuellement avec quelles règles ils pourront vendre, mais éventuellement ce n'est pas nécessaire. Vous allez leur expliquer qu'ils auront des coûts de production pour vendre sur ce marché. Et puis que leur profit sera la différence entre leur coût de production et le prix qu'ils vont mettre sur le marché. De l'autre côté, vous allez dire que les gens qui sont à droite seront des acheteurs sur ce marché. Ils pourront acheter des unités sur le marché avec des règles qui seront déterminées. Et eux n'auront pas des coûts, mais ils auront des valeurs qui seront la valeur pour eux des biens qu'ils auront achetés sur le marché. Et que leur profit sera la différence entre ces valeurs qu'on va leur donner et les prix qu'ils vont négocier sur le marché. Et dans l'exemple que je vais vous présenter, il y a 4 vendeurs, 4 acheteurs. Vous pouvez faire ça avec 10 vendeurs, 10 acheteurs. Vous pouvez faire ça avec 30 vendeurs, 30 acheteurs. Ça ne pose aucune difficulté. Voilà. Et c'est la chose que vous avez expliquer qu'il y a des vendeurs, des acheteurs. Comment ils déterminent leur profit, comment ils vont négocier les prix sur le marché. Et puis vous dites, ben voilà, on ouvre le marché. Alors, l'ambiance en général, c'est l'ambiance sale du marché, c'est-à-dire que ça crie, ça négocie, les gens s'énervent, les gens arrivent à passer des transactions ou ne pas passer des transactions. C'est plutôt animé. C'est assez contrôlé quand même. D'une façon générale, sur ce type de jeu, les gens sont très motivés pour passer des échanges et montrer qu'ils sont des bons négociateurs et qu'ils arrivent à avoir des bons prix. Et vous conduisez comme ça une certain nombre de marchés. Et une fois que ce marché est terminé, vous dites, en même temps, on va regarder les résultats. Alors, les résultats que je vais vous présenter maintenant sont les résultats qu'on obtient avec les groupes d'offres et les groupes de demandes que je vous ai présentés initialement. Donc, je suis capable de vous présenter, de déterminer sur ce marché, compte tenu des coûts que j'ai introduits, des valeurs que j'ai introduites, un prix d'équilibre concurrentiel, qui est ce trait noir que vous avez ici au milieu de votre écran. Ici, la barre horizontale que vous avez ici, verticale, pardon, représente l'ouverture du marché. Ici, la fermeture du marché. Et les points rouges interconnectés sont les transactions qui sont observées sur le marché. Donc, le marché est ouvert, on a des prix qui partent dans tous les sens, on ouvre le marché, on ferme le marché, puis on dit, ben voilà, on a fermé cette première journée de marché, on va en ouvrir une seconde journée avec exactement les mêmes participants et les mêmes valeurs. Et vous répétez comme ça un certain nombre de transactions. Qu'est-ce qu'on observe systématiquement, avec une extrême grande robustesse? On va observer qu'au fur et à mesure qu'on va répéter les périodes d'échange, on va converger vers le prix d'équilibre concurrentiel. Et ça marche magnifiquement bien. Que on converge vers le prix concurrentiel de 785, que on échange les quantités d'équilibre de 25 unités. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir vers la théorie et vous expliquer, ben voilà, je vais vous montrer comment, avec quels outils, a priori, sans conduire le marché, on peut prédire vers quel prix on converge et quelles sont les quantités qui vont être échangées sur le marché. Et vous rentrez sur la modélisation, non pas de façon complètement décontextualisée, sans aucune expérience de la part des participants, mais en appuyant votre présentation du modèle sur la base de ce qui aura été vécu par les étudiants. Alors, seconde illustration pour expliquer aussi l'intérêt que l'on peut avoir. Dans cette expérience-là, qui est une expérience de classe qui est souvent réalisée, à un moment dans l'expérimentation, on va faire un choc sur l'offre. En l'occurrence ici, on va passer de cette courbe d'offre ici à une courbe d'offre légèrement supérieure, ce qui entraîne un déplacement du prix d'équilibre. En gros, on va faire une offre, on va faire un choc sur les coûts de production qui va augmenter l'offre et qui va augmenter le prix d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? On converge vers le premier prix d'équilibre,
vous faites le choc sur l'offre, et hop, les prix de marché se déplacent. Pourquoi? Parce que ben, si les coûts de production augmentent, les prix sur le marché augmentent aussi. Là aussi, de façon très simple, très facile à mettre en œuvre, qui permet de faire comprendre les règles élémentaires des lois de l'offre et de la demande sur un marché. Ce type d'expérimentation-là, ça prend à peu près 30 à 40 minutes pour conduire en laboratoire, débriefing compris. Donc, qu'est-ce que vont apprendre les étudiants? Ils vont apprendre comment fonctionne un marché. Ils vont apprendre, avoir une introduction à énormément de notions fondamentales en économie. Qu'est-ce que c'est que le surplus en échange, surplus du vendeur, surplus de l'acheteur? Qu'est-ce qu'une fonction d'offre, qu'est-ce qu'une fonction de demande? Comment on les construit? Ils vont aussi apprendre des choses sur les règles d'échange, sur les institutions de marché. Et ils vont apprendre beaucoup de choses ils vont avoir une introduction au modèle d'équilibre partiel. Si je généralise maintenant un petit peu en quoi consiste une séance type de jeu expérimental en classe, en général on a cinq étapes dans la séance. Première étape, on a une discussion introductive sur les concepts qu'on va introduire pendant la séance, suivie d'une explication des règles du jeu auquel on va jouer. Ensuite on fait jouer les jeux par les étudiants. On commence à avoir des commentaires et une discussion sur la base de ce qui sera passé pendant l'expérimentation, une discussion libre. Et cinquième point, on fait un retour sur l'analyse, un retour à la théorie, un retour à la présentation des différents concepts qui ont été introduits pendant l'expérimentation. Pourquoi on fait des expériences en économie? Alors, pour l'élève, pourquoi c'est intéressant? Première chose que l'on constate, c'est qu'il y a une meilleure compréhension de la part des élèves, des concepts introduits. Passer du temps pour faire une expérience en classe, ça permet de gagner du temps après en travail personnel parce que les concepts sont beaucoup mieux compris, beaucoup mieux appréhendés, et donc il y a moins besoin d'avoir un travail personnel pour arriver à comprendre ce qui aura été présenté. Le seul point qui peut être négatif, mais qui peut être éventuellement résolu en classe, c'est que bien souvent les motivations des étudiants peuvent manquer en classe. Les élèves peuvent prendre des décisions qui feront éventuellement pas totalement rationnelles parce qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu par rapport à l'expérience qui est faite en classe. Mais dans l'ensemble, on a suffisamment de motivation pour avoir des résultats qui sont intéressants. Pour l'enseignant, ça permet de casser des routines dans d'enseignement. Ça rend un enseignant beaucoup plus interactif et participatif avec les élèves. Et par ailleurs, ça permet d'améliorer l'image de l'enseignement d'économie auprès des étudiants. Alors, le point négatif, c'est que ça demande du temps. Ça demande du temps, mais quelque part, on commence à avoir quand même pas mal de documents qui sont facilement accessibles pour pouvoir monter ce type de séances. Les domaines d'application, a priori, sont extrêmement larges. Vous allez trouver déjà en ligne un grand nombre de jeux qui permettent de traiter la théorie du producteur, du consommateur, du chômage, de la monnaie, de la politique monétaire, du contrôle d'échange, de la finance. Tous les domaines sont quasiment, pour tous les domaines, pour tous les types de concepts, vous allez trouver une expérience qui va permettre de faire ce type d'introduction. Alors, pour trouver des expériences à réaliser en classe, alors pour des raisons qui sont, seraient peut-être difficiles à développer ici, il y a encore très peu de choses en français. Les Américains ont pris encore une grande avance dans ce domaine-là, et c'est principalement en langue anglaise que vous allez trouver beaucoup de documents qui vous permettront de monter ce type d'expérimentation. Il y a des sites qui référencent, qui permettent d'avoir accès à tous ces types de documents. Ils sont en ligne, ils sont gratuitement accessibles. Et vous pouvez monter des expérimentations comme ça sur n'importe quel thème, juste en allant consulter les quelques liens que je vous ai donnés sur ce slide. Il y a un manuel qui existe, qui est maintenant un petit peu daté, mais si vous voulez vraiment avoir une bonne idée des meilleures expériences qui marchent le mieux pour faire des jeux en classe, je vous conseille le site de Charles Holt et celui de Taylor Misters et de Brouwer qui référence un très très grand nombre d'expérimentations. Vous avez un index au début. Si vous voulez expérience de jeu de marché, vous cliquez dessus et vous avez tout le matériel pour pouvoir construire ce type d'expérimentation. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que faire des expériences en classe, c'est efficace? Est-ce que c'est quelque chose qui produit des bons résultats? Comme ce genre d'expérimentation-là sont faits par des expérimentalistes, et bien il y a des expériences qui ont été conduites, ce qu'on appelle des field experiments, pour voir si effectivement on avait des bons résultats avec ce genre d'enseignement. En gros, ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre deux groupes, de scinder un groupe d'étudiants en deux groupes séparés, pour un groupe de leur faire un enseignement classique et pour l'autre de leur faire un enseignement avec des expérimentations. Tous les résultats de ces expériences tendent à montrer que, en termes d'évaluation sur les examens philo, que le fait de conduire des enseignements avec l'expérience permet d'augmenter les notes des étudiants aux étudiants philo. Donc au moins sur cet indicateur quantitatif, on a un bon impact de ce type de séance au niveau de la compréhension des sujets. Au niveau maintenant plus qualitatif de la satisfaction des étudiants, si on se réfère aux évaluations qui sont rendues par les étudiants à la fin des cours, les étudiants trouvent une très grande satisfaction à avoir ce type d'enseignement basé sur des expériences de conduite en classe. Voilà. Je m'arrêterai pour ma ce qui est la partie de la présentation avec ces résultats-là. Juste un mot, il y a deux papiers qui vous permettent éventuellement d'aller un petit peu plus loin sur l'intérêt de ce type de démarche, c'est-à-dire faire des expériences pédagogiques en classe. En particulier, vous en avez un en français de Nicolas Hébert, qui fait un bon point sur d'abord comment faire ce type d'expérience, quelques exemples d'expériences que l'on peut conduire en classe, et puis beaucoup d'informations pour aller trouver des documents pour monter vos propres expériences en classe. Donc, maintenant, ce que l'on va vous proposer pour montrer que ce n'est pas si difficile de faire une expérience en classe, c'est qu'on va faire une expérience avec vous. On va faire une expérience pédagogique avec vous. Vous voyez qu'on doit être à peu près une soixantaine de personnes dans la salle. Donc on va conduire une expérience avec vous, vous montrer comment en un quart d'heure on peut faire une expérience.
Ainsi qu'un exemple de classe, d'expérience de classe en français que vous pouvez tester, qui est disponible donc dans la salle de la chambre de commerce, dans la coursive nord, là où il y a tous les posters. On a préparé tout un ensemble de posters sur les différents thèmes abordés par l'économie expérimentale, et à votre disposition sur une petite table, il y a des exemplaires avec les références et comment présenter une expérience à vos élèves.
Je reviens sur le jeu. Ce jeu est un jeu très simple. Vous allez recevoir 4 cartes. 2 cartes rouges et 2 cartes noires. Vous devrez, dans 5 minutes, rendre 2 cartes à nos collègues qui sont en train de passer actuellement dans la salle. Vous allez rendre ces 2 parmi donc vos 4 cartes, vous allez en rendre 2 sans les montrer.
Ce qu'il faut comprendre pour savoir quelle carte choisir, c'est la règle du jeu. Pour savoir quelle carte choisir, voilà, il faut comprendre la règle du jeu suivante. Chaque fois que vous allez garder une carte rouge pour vous, la carte rouge vous rapportera 10 points. Si vous rendez une carte rouge, lorsqu'on va les ramasser, parmi les deux cartes que vous allez rendre, pour chacune des cartes rouges que vous allez rendre aux personnes qui sont dans la salle, ça va rapporter 1 point à l'ensemble de tous les participants dans la salle. En gros, les cartes rouges que vous rendez constituent une cagnotte qui va générer un gain pour l'ensemble des participants. Les cartes que vous gardez génèrent un gain, mais uniquement pour vous. D'accord ? On va ramasser les cartes. Je vais essayer d'avoir les cartes rouges qui les rendent dans les cartes rouges des parents. Une carte rouge, une carte noire, ou une carte rouge. Et la carte noire ne rapporte rien. La carte noire ne rapporte rien. La carte noire ne rapporte rien. Donc, la carte rouge que vous gardez vous rapporte 8 points par vous seul. Que vous donnez à un point de participation.
Donc, la taille de la cagnotte est de 43 cartes rouges pour 120 cartes rouges distribuées dans la salle. D'accord ? Donc, pour calculer vos gains, c'est très simple. Vous comptez combien de cartes rouges vous avez conservées, vous multipliez par 10, et vous rajoutez 43 points qui sont le résultat de la cagnotte. Si vous avez gardé une carte rouge, vous avez 10 points, plus 53, vous avez donc gagné 53 points. Si les règles sont claires maintenant, je vous propose de faire un deuxième tour avec exactement le même type de règles. On vous redistribue 4 cartes, 2 noires, 2 rouges, et on va remesurer une deuxième fois la taille de la cagnotte. Cagnotte, vous pouvez décider soit de contribuer avec deux cartes rouges, ou avec une carte rouge, ou avec zéro carte rouge. Le résultat de la cagnotte rapporte un gain à tous les participants de la salle. Et les cartes que vous gardez pour vous, que vous ne mettez pas dans la cagnotte, vous rapportent un gain que pour vous personnellement. Quand vous gardez une carte pour vous, une carte rouge, vous gagnez 10 points. Quand vous mettez une carte dans la cagnotte, ça rapporte un point à tous les participants de la salle. D'accord ? Donc, vous allez rendre deux cartes sans les montrer. Ces deux cartes peuvent être deux cartes noires, on ne saura pas. On le verra juste uniquement à la fin. Ça peut être une carte rouge, une carte noire. Dans ce cas-là, vous ne contribuez qu'une seule carte à la cagnotte. Ou ça peut être deux cartes rouges. Votre gain total, c'est les cartes que vous avez gardées pour vous, qui fois 10, plus le résultat de la cagnotte, toutes les cartes qui ont été mises dans la cagnotte et qui en rapporteront chacune un point à l'ensemble des participants. En l'occurrence ici, si on prend le cas de quelqu'un qui a donné ses deux cartes rouges à la cagnotte, son gain c'est 43. Il y a 43 cartes dans la cagnotte, multiplié par 1, ça rapporte 43. Si vous avez contribué avec une seule carte à la cagnotte, vous en avez gardé une pour vous, dans ce cas-là, votre gain, c'est les 10 de la carte que vous avez gagnée pour vous, plus 43 qui est de la cagnotte, à savoir donc 53 points. Si vous n'avez pas contribué à la cagnotte et que vous avez gardé deux cartes pour vous, dans ce cas-là, votre gain, c'est 2 fois 10, 20, plus 43 de la cagnotte que vous recevez, à savoir 63 points. Les règles sont claires ? Ok, donc on va ramasser les cartes. Préparez vos cartes, donc deux cartes à rendre. Si on applique l'hypothèse sur laquelle il joue comme un joueur rationnel au sens que peut donner à ce terme un économiste.
Il garde les rouges
et il espère que les autres vont contribuer à la cagnotte. Ce type de comportement-là, qui est le comportement prédit par la théorie, c'est un comportement qu'on appelle le passager clandestin. Quel est le résultat attendu si chacun se comporte comme un passager clandestin ? Il n'y a aucune cagnotte, et donc il n'y a pas de redistribution à l'ensemble des participants. Maintenant, si je prends le point de vue de l'ensemble de la collectivité dans la salle, quel est le meilleur choix possible ? Que tout le monde contribue à la cagnotte. C'est un petit exemple très très simple, vous permet d'expliquer tous les problèmes qui tournent autour de la contribution à un bien public. D'accord ? Qui permet d'expliquer pourquoi un bien public peut difficilement être pourvu sur la base de comportements volontaires. Ça vous permet d'expliquer de nombreux concepts, comme le concept d'externalité. Et ça vous permet d'expliquer aussi, de faire une introduction sur les différents modes de financement par rapport au bien public. Donc, on va vous présenter maintenant le type de résultats. Alors d'abord, oui. La cagnotte, le second jeu est de 56. Donc, on a une augmentation de la contribution, c'est très bien. En vérité, voilà ce qu'on observe dans une classe. Quand vous faites plusieurs fois ce jeu avec un groupe de 30 élèves, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on voit qu'au fur et à mesure, la contribution au bien public va en diminuant au fur et à mesure qu'on répète et qu'on donne le montant de la cagnotte. Pourquoi on a une diminution de la contribution au bien public ? Mais il y a deux raisons à cela. D'abord, il y a des passagers clandestins, dès le départ,
Et deuxième chose qui est assez intéressant, c'est que les gens qui contribuent au départ, quand ils voient qu'il y a des passagers clandestins dans le jeu, arrêtent de contribuer parce qu'ils ne veulent pas contribuer pour les passagers clandestins. Et vous êtes donc là, toute la... ce qu'on appelle la malédiction des qui tourne autour du bien public, à savoir que sur la base d'une contribution volontaire, vous ne pouvez pas pourvoir ce bien public. Il faut faire appel à d'autres types de mécanismes. Après, libre à vous de lancer des discussions ou des présentations sur la contribution au bien public sur la base de la taxation, sur la base de l'impôt, sur la base des péages éventuellement, quels sont les différents moyens que l'on peut mettre en œuvre pour permettre une contribution suffisante d'un point de vue social à un bien public. Alors, cet exemple de jeu, sur une forme beaucoup plus développée, avec des instructions plus complètes, vous en avez un petit fascicule qui a été tiré en une centaine d'exemplaires qui vous attend à l'endroit où nous présentons, sur l'aile nord du bâtiment de la Bourse, où nous avons un petit stand avec des présentations de résultats expérimentaux, et vous pouvez récupérer à ce niveau-là cette expérience-là en particulier. Ainsi qu'un certain nombre de références qui vous indiqueront où vous pouvez trouver des informations pour des expériences sur différentes thématiques qui pourront vous intéresser.
Pour les enseignants qui seraient intéressés pour implémenter ça, c'est vrai que ça va vous permettre d'introduire après une discussion avec les élèves. Donc, vous leur montrez petit à petit que le marché n'arrive pas à fournir bien public et donc qu'il faut les faire réfléchir sur qu'est-ce qui se passe en général dans ce cas-là, pour que malgré tout on ait de l'électricité dans les rues et du financement des écoles. Donc ça permet après de discuter de l'intervention de l'État, du comportement, des changements de comportement, etc. Donc il y a beaucoup de discussions que vous pouvez initier comme ça et après réutiliser ces données pendant le reste de l'année. Ce qui est important, c'est de passer beaucoup de temps, et non pas comme on l'a fait là, vous passez beaucoup de temps pour expliquer les règles du jeu au départ. Il ne faut jamais commencer un jeu tant que tous les élèves n'ont pas compris ce qui allait se passer. Sinon, c'est la confusion assurée. Donc, passer peut-être 10 minutes, un quart d'heure à bien réexpliquer, mais sans dévoiler ce que vous cherchez à tester, bien sûr. Ça, c'est important. Et si vous voulez accrocher l'attention des élèves encore plus, il est possible d'introduire des incitations. Hein. On l'a fait à l'occasion d'une fête de la science dans un lycée, où on a utilisé des bonbons, tout simplement. Même avec des 18 ans, 17 ans, ça marche très bien. Vous rémunérez en points avec des bonbons, ça ne vous coûtera pas très cher. Et vous pouvez aussi, là, introduire le principe des incitations très facilement. On va prendre des questions maintenant, avant de passer.
Vous avez répondu en partie à une question qui avait trouvé sens. Je ne sais pas comment vous arrivez à formuler l'autre élément. Est-ce que vous avez fait, pour être très pratique, attention au nombre d'élèves dans la classe, de points sur la carte, parce que si vous mettez 10 points sur une classe de 30, à mon avis, l'arbitrage est absolument pas le même et on risque de se...
Tout à fait. Et en général, les expériences que vous allez trouver mettent l'accent sur ce point-là, à savoir comment on passe d'un groupe de 10 à un groupe de 30 ou d'un groupe de 60, quels sont les changements de paramètres que l'on peut faire. Dans certains cas, ça n'a pas d'influence. Ici, ça en a une. On vous a indiqué un petit peu les montants que vous pouvez utiliser pour une classe de 15 élèves, pour une classe de 20 élèves, pour une classe de 30 élèves. Quels sont les montants, les facteurs que vous pouvez utiliser. Dans les variantes qu'on peut proposer par rapport à ce jeu-là, c'est par exemple de changer au cours d'expérience le nombre de points qui rémunèrent toute carte que vous gardez pour vous. Ça permet de voir comment, en changeant l'échelle de la partie que vous gardez pour vous, vous allez modifier les comportements en termes de contribution au bien public. Oui ?
Lorsqu'on fait discuter des élèves en fait, pendant 5 minutes, par exemple, est-ce que les résultats de l'expérience, si jamais, par exemple, l'enseignant ou l'animateur sort de la classe, est-ce que les résultats sont modifiés ?
C'est une variante qu'on propose aussi dans le jeu qu'on présente. Effectivement, une pré-communication entre les participants avant le jeu permet d'augmenter le niveau des contributions. Mais là, de nouveau, si vous répétez sans nouvelle communication, vous allez revoir surgir les passagers clandestins dans ce jeu. Surtout que, comme vous l'avez vu, le dispositif permet de décider sans révéler sa décision. Donc vous allez revoir apparaître les passagers clandestins et de nouveau réenclencher une pente descendante des contributions. Mais momentanément, une discussion entre les participants fait monter le niveau des contributions. Oui.
D'une part, est-ce que quand vous avez répété les expériences, vous pouvez systématiquement en fait, demander d'avoir eu un prix d'offre, enfin plutôt un prix d'offreur, c'est-à-dire un prix qui était plus élevé que l'équilibre, ou est-ce qu'il y a parfois les demandeurs qui vont emporter ? D'autre part, si vous changez les élasticités des courbes par rapport au prix, est-ce qu'il vous arrive d'avoir de temps en temps
Alors, là, pour la première question, ça dépend tous des élèves dans la salle. À des moments, ce sont des expériences qui sont conduites avec... au départ, les participants à ce genre d'expérience sont très près d'informations sur l'état du marché. Ils connaissent leur coût, ils connaissent leur valeur, mais ils ne connaissent rien sur le marché. Donc, vous pouvez avoir des prix qui sont plus élevés au début ou moins élevés au début. C'est vraiment complètement aléatoire. Et ce qui est important, c'est surtout d'observer la progression dans le cadre du marché. Pour la seconde question, effectivement, vous pouvez très bien voir des expériences dans lesquelles vous allez avoir ce qu'on appelle des faux équilibres. Mais là, ça devient beaucoup plus technique à traiter et on s'écarte un peu des concepts fondamentaux que l'on peut mettre dans les jeux en classe. Mais ça peut se mettre en place. Ça peut se mettre en place. Oui.
Toujours sur ce même jeu là, que vous avez évoqué, les transactions se font librement en cours de jeu ou est-ce qu'il y a un système de commissaire-priseur?
Tout est possible. Ça c'est une des variantes que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez introduire par ce jeu-là les différentes façons qu'on a d'organiser un marché. La première chose que vous pouvez faire, c'est de faire un souk. C'est de dire aux gens, bah, allez-y, passez des transactions, allez discuter, et puis il n'y a pas de commissaire priseur, chaque vendeur va voir plusieurs acheteurs et jusqu'à qu'il arrive à faire une transaction. Là vous allez voir comment les prix se forment. Puis après vous allez dire, maintenant on va changer les règles d'échange, on va mettre en place un commissaire priseur qui va annoncer des prix. Vous pouvez faire par exemple un tâtonnement valoratien, dire ben, à tel prix, qui c'est qui vend, qui c'est qui achète. Et puis vous modifiez votre prix en fonction de l'état de l'offre et de la demande, jusqu'à que vous trouviez le prix d'équilibre. Tout est possible, ça c'est une variable sur laquelle vous pouvez jouer et vous pouvez comme ça introduire auprès des élèves ben, les différentes formes que l'on connaît à peu près pour organiser des marchés, des marchés pour la vente de biens ou de services. Donc c'est une variable possible pour l'expérience. Mais avec un souk, ça marche très bien. Vous laissez les gens, vous dites, ben voilà, allez passer des transactions, vous allez voir, les gens vont se lever, ils vont marcher dans la salle, ça va être peut-être un petit peu désordonné pendant 5 minutes, puis ils vont venir vous voir pour vous montrer les contrats, et après vous pouvez rattaquer sur l'interprétation des résultats.
Et justement, donc, comment vous faites la collecte d'informations? Parce que donc, si on prend le principe du souk où chacun négocie dans son coin, donc on demande aux joueurs de noter les transactions qui ont été faites pour ensuite les centraliser pour...
On n'a pas diffusé le matériel pour faire l'expérience de marché. Vous allez le trouver sur les sites que je vous ai cités. Mais en gros, dans ce genre de matériel que vous avez, ce sont des fiches sur lesquelles on a un coût ou une valeur, sur lesquelles ils vont être notés les contrats. Et un contrat est enregistré quand les deux élèves qui ont passé le contrat viennent voir l'enseignant pour dire voilà, on a passé le contrat et là c'est là que vous notez le prix, à quel prix a été passé le contrat. Et vous enregistrez les contrats. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui veut l'ordre qui est là pour enregistrer les contrats et qui collecte à ce niveau-là les prix des échanges sur le marché.
Est-ce que finalement qu'on laisse se faire les échanges complètement librement ou qu'on les centralise via un commissaire priseur, on arrive finalement au même équilibre de marché finalement ou...
Dès qu'il y a un système, les souks sont ce qu'on appelle des mécanismes de marché décentralisés. Et il existe d'autres mécanismes celui avec le commissaire priseur qu'on appelle centralisé. On centralise l'information et on la recommunique à l'ensemble des participants. Si vous avez un mécanisme de marché centralisé, vous avez une convergence beaucoup plus rapide vers le prix d'équilibre. Mais même un souk, ça prend plus de temps, finit toujours par converger vers le prix d'équilibre.
Il y a des problèmes de révéler ou non son information dans le souk.
Exactement. Donc ça converge plus lentement, mais ça finit par converger quand même. Mais quelque part, la convergence est un phénomène qui est intéressant à étudier, mais tout ce qui va être étudié autour des transactions est très, très important, parce que vous allez pouvoir introduire la notion de surplus dans l'échange, la notion de règle d'échange, la notion de prix d'équilibre, montrer comment on construit une fonction d'offre, une fonction de demande, sur la base de cette expérimentation. Et après, vous pouvez revenir sur un formalisme beaucoup plus classique, sur comment on formalise une offre et une demande, et comment on peut arriver à prédire les prix d'équilibre sur un marché à l'équilibre partiel.
Dans la plupart des phénomènes économiques, il y a des constantes de temps. Et comment est-ce que vous introduisez, puisque les choses changent et ça prend du temps?
Alors, la manière dont le temps est traité quand on fait des expériences pédagogiques, c'est sûr qu'il y a des phénomènes séculaires, on ne peut pas faire ça en classe. Et encore, ce n'est pas évident parce qu'il y a par exemple des expériences très intéressantes pour faire comprendre les questions d'arbitrage entre choix de consommation et choix d'épargne, qui permettent d'aborder de façon très, très didactique ces questions-là, qui sont des questions qui se font sur le long terme.
Je ne vais pas dire que le comportement qu'on observe en laboratoire va vous éclairer sur les choix que vont faire véritablement les individus sur leur choix de retraite, par exemple. Mais il n'empêche que pour comprendre l'arbitrage entre consommation et épargne, et des expériences vraiment très simples à mettre en place en classe qui permettent de comprendre ces mécanismes-là. Donc même des questions qui se passent par rapport au temps peuvent être mises en place dans des jeux pédagogiques. De la même manière, si vous voulez introduire des concepts assez compliqués comme la question de l'actualisation, là, la question de tout ce qui est les mécanismes d'actualisation peuvent être très très bien compris sur la base des petits jeux pédagogiques que ça va produire en place. Donc, on peut travailler sur les questions du temps dans l'économie en laboratoire pour faire comprendre des mécanismes un peu généraux qui permettent d'intégrer cette dimension-là par rapport aux choix économiques. De la même manière, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être faites sur les choix face aux risques. Des choses qui nous permettent de faire comprendre aux étudiants ce que c'est que, par exemple, une aversion au risque ou une préférence pour le risque, ou qu'est-ce que ça veut dire d'être neutre vis-à-vis du risque. Ça, c'est des choses qu'on peut vraiment faire avec des jeux expérimentaux qui sont beaucoup plus compliqués à expliquer si on ne fait pas de mise en situation. Oui.
Et est-ce que, dans une situation réelle avec des élèves, la question qui se pose, évidemment, juste derrière, c'est la remise en cause des hypothèses, parce que, évidemment, le jeu donne tel résultat parce que telle hypothèse a été posée, mais je sais que le vécu en cours, c'est finalement le fonctionnement d'un marché, les élèves le comprennent assez facilement, assez intuitivement. Par contre, par exemple, ce qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre, c'est la croissance de la courbe d'offre. Ça leur paraît beaucoup plus nébuleux. Et or, là, c'est posé comme étant un fait, voilà, c'est un point de départ du jeu. Alors souvent, c'est ça qui est difficile à leur faire comprendre. Donc, oui. Ils vont dire, bah oui, effectivement, on arrive à vos conclusions, très bien, mais moi, je ne suis pas d'accord, ça ne se passe pas comme ça. Donc, les règles que vous me donnez ne sont pas des règles réelles.
Il y a beaucoup de jeux, là, on vous a surtout montré les jeux où les individus et les joueurs arrivent à l'équilibre. Mais il y a un tas d'autres jeux où, justement, on sait très bien qu'on ne joue pas à l'équilibre. Si vous enseignez le salaire d'efficience, on a des jeux qui montrent qu'on devrait obtenir un équilibre avec un effort minimum et un salaire minimum, et on sait très bien que les joueurs ne jouent jamais ça. Donc vous allez pouvoir leur montrer et essayer de comprendre avec eux pourquoi, dans certaines situations et dans certains environnements, le comportement ne converge jamais vers l'équilibre prédit par le modèle économique initial de concurrence pure et parfaite. Donc tout dépend des jeux que vous allez utiliser. Mais à chaque fois, vous pouvez retravailler les notions avec les élèves. Il y a encore dans la coursive de la CCI, vous allez voir sur les posters, certains posters où on vous montre la convergence vers l'équilibre, d'autres où on vous montre au contraire une divergence systématique, parce qu'il y a d'autres types de considérations qui interviennent de manière totalement endogène et non pas par l'introduction de chocs exogènes comme on l'a illustré ici.
Pour finir la réponse à la question, d'une façon intuitive, on sait très bien comment fonctionne un marché. Pour avoir fait pas mal d'expériences de marché avec des étudiants de différents niveaux, principalement universitaires quand même, on se rend compte qu'il y a des idées a priori, mais sur les fonctionnements véritablement de la formation d'un prix sur un marché, il y a très très peu de connaissances en fin de compte acquises. Alors après, effectivement, les gens, ça leur paraît pas totalement normal que si la fonction d'offre augmente, les prix vont monter. Mais de l'expérimenter en tant que tel, de voir véritablement comment, simplement, uniquement en modifiant la fonction d'offre, vous allez faire monter les prix de marché sur un marché, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être vécu quand même. Et la même chose, la convergence vers un prix d'équilibre, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être vécu. Parce qu'autrement, on veut bien penser que ce prix d'équilibre existe quelque part, que c'est quelque chose qui a une certaine réalité, mais ça reste très très abstrait. Mais si on l'observe véritablement et on voit qu'on va vers ce prix-là, c'est quelque chose qui est très très formateur.
Dernière chose pour rebondir sur la question de monsieur et de réponse, sur la version risque. Si vous voulez connaître votre attitude face au risque, il y a un petit test jeu qui est à votre disposition aussi. Vous pouvez prendre les formulaires et vous amuser à répondre vous-même et vous avez l'interprétation de vos choix après, et on vous dit si vous êtes plutôt averse, plutôt chercheur de risque, etc.